écoutez Canal B, vous êtes dans cette heure curieuse qui accueille plusieurs émissions sur des sujets de société à chaque fois le vendredi à 13h. Là, vous êtes dans À l'assaut, une carte blanche qui est laissée aux associations et aux collectifs du territoire pour mettre en avant les voix de celles et ceux dont on n'a jamais eu autant besoin pour faire bouger les lignes et puis pour faire avancer les luttes. Et aujourd'hui, en studio, on reçoit l'association rennaise Cœur Résistant. Autour de la table, il y a beaucoup de monde. Hélène, Simon, Gilles, avec un L, Bertrand, mais aussi Antonin Margier, chercheur qu'on entendra dans quelques instants. Bonjour à tous.
Bonjour. Bonjour.
Et c'est donc le moment où je vous laisse la parole pour une carte blanche qui va donc durer une heure, histoire de mettre en lumière vos actions auprès des auditeurs.
Alors, chères auditrices et auditeurs, bienvenue dans notre émission Carte Blanche dédiée à l'association rennaise Cœur Résistant. Aujourd'hui, nous allons explorer les actions de cet asso qui lutte contre la précarité et promeut l'inclusion sociale à Rennes. Cœur Résistant se distingue par ses trois pôles d'activité, les Maraudes, un lieu de répit et le village alimentaire. Fondée en 2015 de manière informelle, l'association a été structurée en 2016 et a connu une expansion significative avec la création du village alimentaire en 2020 en réponse à la crise du Covid-19. En 2021, elle a déménagé dans l'ancienne école du Faux-Pont, où elle a mis en place une cuisine partagée, lauréate du budget participatif. Un partenariat avec le lycée Zola a été engagé en 2024. Ce qui rend Cœur Résistant unique, c'est son approche participative. Les personnes accueillies sont encouragées à s'engager activement dans le projet associatif. L'association propose aussi des repas cuisinés lors des maraudes, se démarquant ainsi des autres initiatives. Donc pour enrichir notre discussion, nous sommes avec Hélène Bougot, coordinatrice de l'association, qui partagera son expérience et sa vision des actions menées. Gilles Tarasenko et Simon Posnick, coprésidents de Cœur Résistant. Et puis Antonin Margier, maître de conférence en géographie sociale à l'université Rennes 2. Nous aborderons également une chronique littéraire sur Être radical de Saul Alinsky, suivie d'une discussion donc avec Antonin Margier, dont je viens de parler, sur les dynamiques de cohabitation dans nos espaces urbains. Mais il vous expliquera ça mieux que moi. Voilà, donc pour une présentation rapide de l'association. Donc on peut peut-être commencer par une présentation du village alimentaire avec Hélène, donc coordinatrice de l'association. Donc comment fonctionne le village, Hélène ?
Alors, du coup, le village alimentaire, c'est une épicerie gratuite, ouverte à toutes les personnes, sans condition de ressources. On accueille des personnes du lundi au samedi, matin et après-midi. Il y a environ 200 foyers qui viennent récupérer des produits. Et donc, l'idée, c'est que les personnes sont accueillies et puis vous récupérez des denrées parce qu'elles sont rangées par catégorie de produits. Donc, elles vont pouvoir repartir avec à la fois des produits laitiers, viande, plats préparés, des fruits et légumes et des produits secs.
Et donc, elles peuvent venir sans inscription, sans ressources, sans conditions. C'est vraiment un accueil complet, sans conditions donc.
Exactement, l'accueil il est inconditionnel. L'idée c'est d'enlever un maximum de freins à l'accès à l'aide alimentaire. Donc on estime que c'est déjà pas évident de venir dans les structures d'aide alimentaire. Donc on propose aux personnes de venir une fois par semaine seulement, parce qu'on accueille en effet 200 foyers chaque jour. Donc on pourrait pas accueillir plus de personnes au niveau de nos stocks de denrées alimentaires. Mais l'idée en effet c'est qu'elles puissent venir après quand elles le souhaitent. Pas de rendez-vous parce qu'on se rend compte que en fait, sur une semaine, il y a beaucoup de personnes qui ont plein d'autres choses d'organiser. Donc l'idée, c'est qu'elles viennent quand elles le souhaitent. Et on voit bien en plus que ça se lisse relativement bien sur la semaine. Et voilà. Et du coup, pour faire fonctionner tout ça, il y a besoin de 25 bénévoles par jour. Mmh. Et donc c'est une sacrée organisation aussi qui est assez invisibilisée. Mais sans cette équipe, on n'y arriverait pas. Donc voilà.
Donc il y a une collecte de denrées aussi. Ça représente en tonnage à peu près.
Ouais, sur une année, il y a environ 250 tonnes de nourriture qui est distribuée. Et en effet, il y a des conducteurs et conductrices qui, tous les matins, vont avec notre camion récupérer des denrées alimentaires dans des magasins ou chez différents partenaires. On en a une quarantaine actuellement. Et puis, il y a également des structures qui viennent nous livrer directement des produits. Et donc, il y a tout un travail de manutention, de tri, d'organisation des produits selon les dates, etc., qui se fait en amont de la distribution et de l'accueil du public.
Et donc, l'association s'est considérablement développée depuis 2015-2016. Comment elle a pu absorber cette grande activité qui est devenue hyper importante à Rennes ?
Bah, faut dire qu'à la base, l'association, c'était juste des maraudes. C'est un gars qui est arrivé à Rennes, qui allait à la rencontre des SDF. Il leur a dit, les gars, c'est quoi les soirs où vous pouvez pas manger ? Les gars leur ont dit, c'est le vendredi et le dimanche, c'est les soirs où il n'y a pas de maraude à Rennes. Ce gars-là qui habitait chez lui, à Bru, chez sa mère, et bah, il s'est mis à préparer des trucs, il prenait le bus avec sa glacière, et il allait distribuer ça aux gars dans la rue, le vendredi et le dimanche, tout complètement à l'arrache. Petit à petit, ça a pris, et il a voulu que les gens s'impliquent dans le projet, donc finalement les gens ont commencé à faire des maraudes avec lui. Et puis, à un moment donné, l'asso a eu l'occasion d'investir des locaux au 19 rue Le Gravant, nos locaux historiques. On était hébergés par une asso qui s'appelait Ici on se parlait. Et là, on s'est dit, on peut aussi faire de la distribution alimentaire. Donc, on s'est structuré en asso à ce moment-là. Et on a noué un partenariat avec une entreprise sociale qui s'appelle Phoenix, qui permettait de faire le lien entre les petites et moyennes surfaces et l'association. Et qui permettait à ces supermarchés de défiscaliser leurs dons de nourriture. Du coup, c'est encore des bénévoles avec leur bagnole qui allaient dans ces magasins chercher de la nourriture pour la redistribuer sous forme d'épicerie gratuite, principalement aux personnes à la rue, mais aussi plus largement aux personnes en situation de précarité. Donc c'était des maraudes le vendredi et le dimanche, et la distribution alimentaire le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi. Donc c'est une asso qui ne s'arrête jamais depuis 2015, on ne s'est jamais arrêté. Ce qui était intéressant dans cette épicerie gratuite et dans les maraudes, c'est que vraiment l'idée, c'était pas seulement que les personnes viennent retirer de la nourriture, mais aussi qu'elles s'impliquent dans le projet si elles en ont envie. Et du coup, la majorité de nos bénévoles étaient déjà des personnes d'abord accueillies pour l'aide alimentaire. Parce que pour distribuer la nourriture, comme l'a expliqué tout à l'heure Hélène, il faut d'abord aller la chercher, il faut la trier et puis il faut la distribuer. Donc on va parler des maraudes. Effectivement, ouais. Les maraudes, c'est pas des sandwichs ou de la soupe qu'on distribue, c'est des vrais trucs qu'on cuisine. Donc à partir des invendus qu'on distribue, on a une équipe de bénévoles effectivement qui fait à manger, qui prépare des plats de toutes sortes et dont les personnes qui ont ça super ont l'air très contentes de ce qu'on leur propose. L'idée du coup, c'est qu'il y ait des bénévoles qui viennent le vendredi et le dimanche après-midi cuisiner pour distribuer ces plats derrière dans la soirée. On a un petit chariot de maraude, on se promène dans le centre de Rennes et on distribue ça aux personnes.
Et donc, ce qui caractérise aussi l'association, c'est la participation des bénévoles dans son fonctionnement. Est-ce que vous pouvez en parler ?
Oui, en effet, l'idée de Cœur Résistant, c'est qu'il n'y ait pas d'échange monétaire. Donc on propose une aide alimentaire gratuite. Par contre, il y a un échange temporel qui est possible. Donc les personnes accueillies peuvent devenir, si elles le souhaitent, bénévoles, sans injonction non plus au bénévolat. Et par la suite, elles peuvent petit à petit s'engager sur les différentes missions, que ce soit les maraudes, la cuisine ou village alimentaire. Et du coup, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'espaces comme ça pour finalement se reconstruire, prendre confiance petit à petit en elles, retrouver une énergie, une équipe, retrouver des horaires. Pour certaines personnes, c'est aussi se perfectionner en français, par exemple. Et du coup, elles sont les bienvenues pour participer aux différentes activités. Il y a différentes marges d'engagement. On se rend compte que finalement, pour beaucoup de personnes, de déjà être présente, c'est déjà beaucoup. Et du coup, nous, on espère que le cadre qu'on propose, il soit bienveillant, le plus accueillant possible, pour que chacun et chacune se sente à l'aise, quel que soit son parcours de vie, quel que soit... on accueille des personnes qui ont, par exemple, des troubles psy, des addictions, et elles sont les bienvenues. On va y arriver ensemble, on est une équipe. Et l'idée, par la suite, c'est qu'il y ait des toutes petites marges d'engagement où on peut déjà être bénévole. Et puis par la suite, si on s'implique davantage, si on commence à prendre ses repères, si on est plus à l'aise, on peut devenir référent ou référente. C'est-à-dire qu'on est bénévole et on coordonne une équipe de bénévoles qui pour assurer finalement les journées. Par la suite, on peut également devenir coprésident ou coprésidente. Et du coup, tout ce parcours-là du bénévolat, il est super intéressant pour nous parce qu'il permet de refléter au niveau de
toutes les strates.
À toutes les strates. Et du coup, l'idée, c'est que au final, toutes ces petites marges d'engagement, elles permettent à toutes les personnes accueillies de les mobiliser si elles le souhaitent. Et puis, ça reflète finalement les personnes qu'on accueille.
Et donc en 2021, vous participez au budget participatif et vous le remportez, le budget participatif de la ville de Rennes. Et donc vous emménagez à l'ancienne école du Faupon, ce qui vous permet d'avoir une cuisine et de préparer des repas pour les maraudes.
C'est ça, il y a deux choses qui sont arrivés à peu près en même temps, c'est que nos locaux du 19 rue Le Gravant étant devenus vétustes, la ville nous a proposé d'investir l'ancienne école du Faux-Pont en face du TNB rue Saint-Hélier. Donc un super local avec beaucoup plus d'espace. Assez symbolique quand même, parce qu'une ancienne école maternelle, je trouve ça assez sympa d'accueillir des personnes à la rue dans une école maternelle. Et en même temps, on gagne effectivement, on est lauréat du budget participatif, ce qui nous permet d'investir dans une cuisine de qualité professionnelle, et plutôt que de cuisiner nos repas de maraude dans une vieille cuisine un peu délabrée, là on a pu vraiment travailler avec des produits de qualité, du matériel de qualité, et vraiment proposer des repas de qualité.
Il y a des formations, j'imagine, en termes d'hygiène de...
Ah bien sûr, on respecte toutes les normes d'hygiène. Voilà, on a une équipe de salariés qui est très à cheval là-dessus, et heureusement.
Avant de poursuivre, je vous propose d'écouter l'extrait d'un reportage qui avait été réalisé en octobre 2022 par Canal B, justement au moment de l'ouverture des nouveaux locaux de Cœur Résistant dans cette ancienne école du Faux-Pont à Rennes.
On cuisinait rue Le Gravrand, mais dans d'autres conditions, avec une cuisine beaucoup plus petite, avec une gazinière. Et c'est vrai que pour faire des repas pour 70 personnes, c'était quand même un peu la mission.
Il y a des énormes... C'est une gazinière ou c'est électrique? Ça, c'est électrique. Ouais. Électrique, il y a des frigos géants, il y a des étuves pour conserver au chaud une fois que c'est fabriqué. Il y a une rôtisserie, il y a même une découpeuse à jambon. En fait, ici, à la base, c'était déjà la grande salle qu'on a vue avant, c'est le réfectoire de l'école. Donc, c'était déjà une cuisine ici qui était complètement démontée. Elle était vide quand on est arrivé.
Et donc, les bénéficiaires aussi participent à cette cuisine.
Ils sont encouragés. On a toute une équipe de bénévoles, on ne différencie pas, dont les bénévoles qui sont les personnes accueillies, qui sont les étudiants, qui sont les retraités, qui sont les travailleurs qu'on a du temps à donner. Tout ça, c'est nos bénévoles. Et effectivement, pour que la cuisine fonctionne, il faut 5 à 10 personnes, et ils s'inscrivent tout simplement sur un planning et ils cuisinent ensemble. Ils décident du menu ensemble en fonction des ressources qu'on a, enfin des ingrédients qu'on a pu récupérer dans la semaine, et ils cuisinent ensemble l'après-midi pour que ça puisse partir en maraude à 19h.
Et concernant la gouvernance, justement, on en parlait, il y a donc aussi Gilles qui est coprésident. Donc vous êtes des coprésidents, vous êtes combien de coprésidents au sein de l'association?
Alors, normalement, nous sommes 5 coprésidents. Il y a un peu un turnover qui s'installe parce qu'on est avec des gens qui sont, cette fois, dans une situation de précarité, qui fait que, justement, dans chacune des situations auxquelles on est confronté, on est amené à accueillir les gens dans ce qu'ils sont capables de donner, comme le disait Hélène tout à l'heure. Et donc, on est 5 coprésidents. Et après, ce que je voulais souligner aussi par rapport à ce qui avait été dit, c'est ce côté où, en fait, on va distribuer la nourriture aux populations. Mais ce n'est pas juste de la charité, comme je dis toujours, ce n'est pas la charité du tout, c'est une façon aussi de les impliquer. Et les personnes qui se nourrissent peuvent aussi participer à la fabrication de cette nourriture, à la distribution. Et l'association, en fait, est un vecteur, un outil qui permet à ces personnes de sortir peut-être aussi de cette précarité de fonctionnement. Elles peuvent s'investir, elles peuvent s'impliquer, en fait, dans ce qu'est cette association. Et l'association est vraiment gérée par des gens qui sont bénéficiaires et d'autres personnes aussi. Par exemple, moi personnellement, je ne suis pas forcément à la rue. Mais par contre, l'idée, c'est de pouvoir travailler ensemble, cette sorte de mixité sociale où des gens ont des compétences et vont pouvoir les mettre au service des autres et travailler ensemble à construire une façon de se nourrir et de ne pas rester justement dans cette marginalisation dont la nourriture n'est qu'un paramètre, n'est qu'un symptôme.
Et donc vous proposez aussi un lieu de répit pour les personnes en précarité.
C'est ça, dans cette école du Faux-Pont, du coup on est ouvert du lundi au jeudi après-midi, et on propose aux personnes de venir se poser en après-midi au chaud avec un café. Et aussi, vu qu'on a une cuisine, on prépare des gâteaux, on prépare des petites choses à manger. Donc c'est un endroit où tu peux te poser au chaud en journée et à des moments où les accueils du jour ne sont pas forcément ouverts, par exemple.
Est-ce que vous notez un manque de structure, justement, et vous avez imaginer ce lieu parce que des bénéficiaires éventuellement...
Il y a des structures institutionnelles qui existent et qui font très très bien leur travail, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est des travailleurs sociaux qui vont accompagner les personnes dans leur démarche, on n'est pas là pour ça. On est juste là pour leur offrir un endroit chaleureux où ils peuvent se poser. On a noué un partenariat il y a peu de temps avec le lycée Émile Zola qui est juste à côté. Et l'idée, c'est que on récupère les invendus du self qu'on va chercher tous les midis, et, ce qui permet à la fois de rentrer dans nos valeurs d'anti-gaspillage, dans le sens où on va récupérer de la nourriture qu'elle est destinée à être jetée. Et cette nourriture, on la distribue sous forme d'assiettes, repas chauds pour les personnes à la rue, donc du lundi au jeudi après-midi dans l'ancienne école du Faupont.
Et vous avez aussi des partenariats avec d'autres structures sociales pour faire participer des écoliers, lycéens, notamment avec l'ITEP d'Alouvry, il me semble.
Alors oui, c'est vrai qu'on accueille finalement beaucoup de personnes issues de différentes structures. On accueille en effet l'ITEP, des jeunes qui sont à l'ITEP et qui viennent régulièrement. On accueille des jeunes de Prisme. On accueille également des personnes qui font leur tige et qui font leurs mesures de réparation pour les personnes mineures et qui viennent au village alimentaire pour les réaliser. On accueille des stagiaires. Voilà, il y a beaucoup de monde. Finalement, on sent que c'est un peu un lieu, un repère. Et du coup, cette mixité aussi fait que, eh bien, on se rencontre. Peut-être que pour certaines personnes, elles n'auraient jamais rencontré ces personnes-là. Mais là, au final, le fait de faire une action commune, eh bien, ça fait du bien. On se rencontre. C'est plus facile aussi pour échanger, pour discuter.
Je me permets de faire une intervention, c'est mon côté journaliste qui reprend le dessus. Vous avez cité donc un ITEP, c'est un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique, ouais. Et pour les TIGES, les travaux d'intérêt général.
Donc au sein de Cœur Résistance, c'est beaucoup d'acteurs différents qui participent, qui en sont bénéficiaires, mais au final, c'est la même chose quasiment. On a des... Enfin, quasiment. Pardon. Désolé pour le montage.
C'est pas grave. Je vois mes vacances s'éloigner.
morceau, non ?
Ouais, donc on va...
Un peu de musique, là, depuis tout à l'heure.
On va écouter... On va lancer le premier morceau, Lost in Hawaii, avec I Like You. C'était Lost in Hawaii avec I Like You, un groupe qu'on a aimé parce qu'ils ont participé au temps fort de Cœur Résistant qui a lieu au mois de septembre tous les ans. avec des concerts, des jeux. Et donc on vous invite à venir en septembre 2025.
La date n'est pas encore officielle, mais on vous l'annoncera bientôt.
Voilà. Et donc on va enchaîner avec une chronique littéraire de Gilles.
La politique de gauche. Un sujet décrié dans les grands médias. Qu'on aime ou qu'on déteste, c'est devenu synonyme d'un programme orienté vers les services publics et la redistribution des richesses, dans le meilleur des cas. On pourrait en parler pendant des heures. Il y en a qui sont plus pour plus d'implication de l'État, d'autres pour une diminution de cette implication. Ce qu'on n'interroge pas tant que ça, finalement, c'est le fonctionnement de l'État en lui-même et notre rapport à l'organisation et à de la démocratie elle-même. Pour bien comprendre que résistant et notre façon d'agir, on ne peut pas cantonner son action à une œuvre de charité alimentaire. Oui, dans notre système actuel, on comprend facilement les associations d'aide comme des services qui répondent à un besoin primaire, à savoir se nourrir, mais pas vraiment comme des outils qui permettent l'émancipation vis-à-vis de cette pénurie. À cœur résistant, les quatre valeurs qui sont dans nos statuts, à savoir, on a déjà un peu évoqué, l'inconditionnalité, la participation, l'anti-gaspi et la convivialité, évoquent plus que de juste remplir des estomacs. Et donc j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un livre un peu particulier qui a marqué une ou plusieurs générations d'activistes. Il a été écrit par Saul Alinsky. Saul Alinsky est un personnage qui a forgé sa légende dans les ghettos de Chicago dans les années 1930. Je vous parle d'une époque où la ségrégation était encore en vigueur aux États-Unis et où être noir faisait généralement de vous un citoyen de seconde zone. Saul Alinsky était un activiste qui a organisé les populations de ces ghettos pour qu'ils obtiennent des droits, pour simplement vivre décemment. En 1971, il a voulu laisser un héritage de ses années de lutte. Il a écrit un livre publié en français sous le titre « Être radical, manuel pragmatique pour radicaux réalistes ». Il a rédigé, dans un climat social et politique explosif, aux USA, c'est l'époque des Black Panthers, de la radicalisation des campus universitaires, la lutte dans les ghettos, ou alors des mouvements comme le Weather Underground, ou encore toute une série de grèves, et j'en passe. Ce livre va assurer à Alinsky bien des adeptes aux USA, dont un certain Barack Obama. Aujourd'hui, c'est un livre qui résonne sous plusieurs aspects avec l'action de notre association Cœur Résistant. Même si je ne pense pas que beaucoup l'aient vraiment lu à l'assaut. Franchement, il n'est pas si connu. Franchement, je ne vais pas vous faire une étude approfondie du contenu du bouquin, qui est très riche. On pourrait en parler longtemps, de plein d'aspects que ce bouquin soulève, et faire une émission de 2 heures rien que sur lui. On n'est pas là pour ça. J'aimerais juste attirer votre attention sur la posture que ce livre défend. J'espère simplement que ces quelques mots et notre action qu'on est en train de vous décrire vous donneront envie d'aller le découvrir. On est là pour parler de cœur résistant. Et je trouve que ce livre met des mots sur la vision que notre association porte, sur ce qui la rend si particulière dans le paysage de l'aide alimentaire. En substance, Alinsky aborde les questions de la pauvreté sous l'angle de l'action et du dynamisme des groupes qui vivent dans la précarité. Il condamne des programmes étatiques charitables, mais qui restent bien incapables d'émanciper réellement les pauvres. Pour lui, les dépossédés n'ont pas besoin qu'on les aide, mais qu'on les émancipe. Quand on lui renvoyait que le pognon de dingue investi par l'État avait fait bien plus qu'Alinsky, lui répondait « C'est la vérité. Nous n'avons jamais rien fait pour les Noirs, ou les pauvres dans notre cas, nous avons travaillé avec eux. » Il cherchait avant tout à développer l'autonomie des précaires et à leur donner leurs propres outils organisationnels et politiques. On parle ici de capacité collective d'action, pas de politique partisane. Il veut leur apprendre à développer du pouvoir. Pour lui, les gens, je cite, ne reçoivent pas l'opportunité, la liberté, l'égalité et la dignité comme on reçoit un cadeau ou un acte de charité. Ils ne les reçoivent que par l'acte de les prendre au prix de leurs propres efforts. Mais en face, l'institution se méfie du peuple, même quand l'institution est de gauche. Alinsky en est conscient. Cette méfiance crée un clivage malsain entre le peuple et son organe structurant. Alinsky n'est pas un réformiste. Pour lui, les dés sont pipés par le système lui-même. D'ailleurs, Hillary Clinton, dont vous avez peut-être entendu parler, quand elle était étudiante, elle a failli rejoindre Alinsky. Mais elle a renoncé parce que lui, Alinsky, estimait qu'on ne peut changer le système que de l'extérieur. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'elle s'est encartée chez les démocrates. Alinsky dénonce le pouvoir qui s'avère être un pouvoir sûr, celui des gens qui ont sur les gens qui n'ont pas. Pour lui, la deuxième catégorie est d'abord celle des gens qui ont été dépossédés de leur capacité à s'organiser et à s'impliquer dans leur alimentation. Implicitement ou pas, ils sont dépossédés de toute possibilité de pouvoir agir et de pouvoir s'émanciper. Toute sa vie, Alinsky a lutté pour permettre à ces gens qui ne sont rien, comme on l'a entendu, de redécouvrir et de se forger une capacité d'action. Il a lutté contre une forme de misère qui nourrit toutes les autres, la misère du déclassement. Dans une société qui n'a jamais produit autant, la misère ne provient pas du manque de biens, mais d'une désorganisation toxique du système. Alinsky a proposé des pistes pour répondre à cette misère. Et je pense que Cœur Résistant s'inscrit complètement dans cette démarche, même si on a besoin de lire un peu ce bouquin. En guise de conclusion, je vais simplement laisser Alinsky décrire la raison d'être de ce livre. Et il dit « Si Machiavel écrivit Le Prince pour dire aux riches comment conserver le pouvoir, j'écris Être radical pour dire aux pauvres comment s'en emparer. » Donc lisez Alinsky, lisez Être radical, manuel pragmatique pour radicaux réalistes, et surtout venez nous voir et nous rejoindre pour expérimenter ça avec nous.
Waouh, merci Gilles. Donc Gilles, ce livre d'Alinsky donc, fait résonance avec le fonctionnement de l'association. Donc quelle place prend l'implication de tout le monde dans le fonctionnement et la vision de Cœur Résistant ?
En fait, c'est le cœur de l'association, comme je disais tout à l'heure, c'est pas tant de nourrir, les gens auront toujours faim, et puis il existe, comme le disait Simon, des associations qui font très bien leur travail. En fait, à Cœur Résistant, on se dit, mais en fait, les gens peuvent vraiment s'impliquer dans leur capacité à se nourrir. Et comme je disais tout à l'heure, il y a ces quatre valeurs, parmi les quatre, il y a celle qui est l'anti-gaspille, s'apercevoir que cette société produit suffisamment, et qu'aujourd'hui, en fait, on est une société qui produit de la nourriture, qui produit plein de biens, et donc on ne devrait pas avoir de pauvreté ou de précarité, techniquement. Pourtant, il y en a une. Et l'un des axes dans lequel, sur lequel on s'attarde dans Cœur Résistant, c'est le fait que les gens se retrouvent marginalisés eux-mêmes et marginalisés dans leur tête et dans leur fonctionnement. Et l'association, sans être des grands idéalistes théoriques, c'est une façon très concrète pour eux de s'impliquer dans leur nourriture et aussi dans cette redistribution, dans ce partage. Et parmi ces valeurs, il y a celle de la convivialité qui fait que, c'est pas qu'on est tous une bande de potes, même si on s'entend bien et on va boire quelques coups ensemble de temps en temps, mais il y a cette idée de faire en sorte qu'il y ait un espace safe, comme on dit, un espace serein, où on peut coexister sans discrimination. On peut avoir différentes idéologies, mais l'idée, c'est pas d'imposer cette idéologie à ceux qui viennent, juste de créer un espace où chacun, dans sa précarité, peut se dire, bah tiens, je vais devenir acteur de mes besoins, en fait.
Et quelles sont les forces et les limites de ce fonctionnement ?
Ah bah c'est le public, je pense déjà. C'est un public qui est souvent cabossé. Et on le voit même au niveau de la coprésidence, on a eu des défis, on l'a eu au niveau des référents, on l'a au niveau des bénévoles à tous les étages. En fait, c'est de voir des gens qui ont forcément leur casserole, leur zone d'ombre, et de faire coexister ces gens, eh ben on s'aperçoit que c'est pas un remède miracle, résistant, c'est pas le lieu où on a trouvé la solution, l'alpha et l'oméga du fonctionnement social, mais où on expérimente, on essaye de construire des systèmes de fonctionnement qui vont faciliter cette implication, et on ajuste en permanence, et on redécouvre, et on apprend, et on discute, et on prend des groupes de parole, en tout cas des espaces de parole, pour pouvoir débriefer toutes nos actions, c'est comme ça qu'on le fait. Donc les limites, c'est le public qu'on a, c'est le fait qu'on n'a pas toutes les sciences. Et nos forces, c'est que ça permet à des gens d'être vraiment impliqués, responsabilisés et d'être valorisés tout simplement. Quelqu'un qui vient, j'ai un exemple juste pour vous dire, quelqu'un que quand on vidait le camion l'autre fois au Faupon, le gars il vient me voir, il décharge avec moi, il me dit trop content, grand sourire, oh, je suis content de vous aider, mais moi voilà, je suis toxico, je suis pas tout le temps disponible. Je dis enfin je m'en fous, c'est pas ce que tu consommes, par contre tu viens quand t'es là, quand t'es prêt à être disponible, et tout content. Je l'ai revu deux semaines après, rayonnant et trop content de s'impliquer dans l'association. Je sais pas en fait derrière comment il a toutes ces zones d'ombre, par contre quand il vient à l'assaut, il découvre une façon de s'impliquer et qu'il est capable d'être acteur tout simplement.
Faut expliquer que dans le bénévolat à Cœur Résistant, il n'y a pas d'engagement. Ça veut dire qu'on peut faire du bénévolat une fois par an, tous les jours, une fois de temps en temps. Le seul truc, c'est de dire à l'avance quand on vient, mais on n'est pas obligé de revenir. Et ça nous permet aussi de capter des bénévoles, aussi bien des précaires que des étudiants, que des travailleurs, qui ont envie de donner un coup de main de temps en temps parce qu'ils ont le temps, mais sans s'engager sur toute l'année.
Et donc ça peut être l'occasion aussi d'évoquer les partenariats que vous avez avec les acteurs publics, privés. Comment vous les gérez ? Est-ce qu'ils adhèrent à ce fonctionnement ?
Bah, on ne va pas se cacher que financièrement, c'est toujours compliqué. Hein. Nous, on n'a pas la moitié de notre budget qui vient de subventions publiques. On est soutenu par le département, la métropole, la ville, la région depuis peu de temps. Mais pour faire fonctionner ça, il faut de l'argent. Et l'argent, comment on va le chercher? Aujourd'hui, on est obligé malheureusement d'aller chercher dans le privé ou auprès de fondations. Et voilà, l'équilibre budgétaire, c'est toujours un casse-tête en fin d'année parce qu'on sait très bien que des assos comme nous ne sont pas forcément dans les petits papiers de l'État, malheureusement. Et du coup, on bricole, mais on s'en sort.
Il est possible de donner donc à Cœur Résistant. Comment on fait? Il y a un site web?
Oui, il y a une page Helloasso qui fonctionne bien où on peut donner 1 euro, 10 euros, 1000 euros, comme vous voulez. Mais sachez qu'on en fera très bon usage.
Et en précisant, c'est toujours important, surtout pour les donateurs qui peuvent donner, justement, c'est des gens qui peut-être payent des impôts. C'est une association reconnue d'intérêt public. Et donc tous les dons sont défiscalisables à hauteur de 66% pour les particuliers et 60% pour les entreprises. Vous pouvez obtenir un reçu fiscal, donc participer, c'est aussi permettre à l'État de participer finalement par ce biais-là. C'est une façon de le faire participer.
On va enchaîner avec un deuxième titre musical avec Stern, Underworld.
In the empty man city, just one vibration getting through my body. One rotation in the dry infinity.
Culture.
Information.
Restez curieux.
Avec Canal B.
Et donc c'était Stern avec Underworld, Stern qui a participé aussi au temps fort de l'association, qui se déroule tous les mois de septembre avec des concerts, des jeux, et ça participe financièrement à l'activité de Cœur Résistant. Donc on vous attend l'année prochaine, sûrement au mois de septembre. Donc on va enchaîner avec Antonin Margier, donc tu es maître de conférences en géographie sociale à l'université Rennes 2. Donc déjà, Antonin, est-ce que tu peux nous présenter ce qu'est ton travail, la géographie sociale, c'est quoi ?
Bien sûr. Merci pour cette invitation. Donc effectivement, je suis enseignant-chercheur à Rennes 2 et je travaille beaucoup sur la question de la pauvreté, la gestion de la pauvreté, la gestion du sans-abrisme, que ce soit au niveau des politiques sociales qui sont déployées, des initiatives qui sont mises en place pour répondre aux besoins des personnes, autant que au niveau des stratégies d'invisibilisation dans les espaces publics de ces personnes qui sont aussi déployées souvent dans le même temps. Donc c'est en fait l'ambivalence de cette gestion de la pauvreté que j'essaye de mettre à jour à travers des enquêtes de terrain, à travers une immersion dans le terrain, des entretiens avec des personnes, de l'observation sur le terrain, et en particulier dans le terrain, dans un terrain plutôt nord-américain de mon côté, puisque mes études de cas principales sont Portland et Chicago actuellement, sur lesquelles je travaille. Mais bien évidemment, je suis aussi en poste à l'Université de Rennes, et donc je m'intéresse quand même, même si ce n'est pas forcément avec autant d'investissement, je m'intéresse évidemment au cas rennais, et en particulier au cas de Cœur Résistant, qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, et avec qui je compagnonne depuis quelques années sous différentes formes, que ce soit effectivement des ateliers d'étudiants qu'on met en place pour justement essayer d'interroger le modèle qui s'y développe, que ce soit sous la forme de projets de recherche qu'on puisse être développés sur l'asso. Donc effectivement, voilà, je suis beaucoup plus ancré dans le contexte états-unien, qui fait écho à ce qu'à la chronique précédente sur Saul Alinsky et le terrain de Chicago. Mais je pense qu'il y a des résonances ou il y a des mises en perspective qui peuvent être intéressantes à déployer. Sans vouloir non plus calquer le modèle états-unien sur ce qui se passe en France, puisqu'on est dans des logiques évidemment bien différentes, que ce soit au niveau de l'état social, qui sont là aussi tout à fait différents, et les formes de pauvreté qui sont différentes. Mais je pense que ça peut être intéressant d'essayer justement de les faire résonner pour voir ce que ça peut nous dire sur ce qui se passe ici, sur le rôle de Cœur Résistant dans l'évolution aussi des politiques publiques, etc. Et donc, peut-être que je peux revenir rapidement sur ce que j'ai observé aux États-Unis et qui m'intéressait à discuter à travers votre cas, pour peut-être justement susciter aussi une discussion ensemble, puisque aux États-Unis, le démembrement de l'État-providence est très largement avancé, beaucoup plus qu'en Europe, et ce qui se manifeste notamment par des modalités de gestion de la pauvreté qui reposent essentiellement dorénavant sur des acteurs non étatiques, sur des acteurs de la société civile, sur lesquelles s'appuie l'État, ou auxquelles l'État délègue finalement cette gestion de la pauvreté sous la forme d'une contractualisation avec toutes ces organisations à but non lucratif, des non-profits comme on les appelle aux États-Unis, et qui sont dorénavant en charge de gérer la pauvreté, souvent sous la forme d'une contractualisation avec les pouvoirs publics, et qui de fait deviennent aussi progressivement dépendantes des pouvoirs publics. Puisque ces organisations sont généralement très professionnalisées, sont avec tout un ensemble de ressources pour pouvoir aussi répondre aux appels d'offres, et donc pour pouvoir bénéficier des contrats et des fonds qui sont associés à ces contrats, doivent aussi s'aligner sur les perspectives déployées par les pouvoirs publics ou sur la ligne des pouvoirs publics, et donc adopter des solutions telles qu'elles sont souhaitées par les pouvoirs publics. Et donc il y a une forme de normalisation de ces organisations, une forme de dépolitisation de ces organisations qui mettent de côté de fait la dimension militante ou l'envie de transformation de l'ordre social qui a souvent animé au départ la fondation de ces organisations, et qui de fait se dépolitise, se normalise dès qu'elles rentrent dans ce jeu-là, puisqu'effectivement elles doivent pouvoir être en mesure de bénéficier à nouveau de contrats à l'avenir pour pouvoir se maintenir, et donc s'alignent sur ces solutions, et qui ont souvent des solutions tout à fait différentes que celles que proposent des organisations plus militantes comme Cœur Résistant, ou comme l'équivalent de Cœur Résistant aux États-Unis.
Et n'est-ce pas une traduction un peu néolibérale de la prise en charge des personnes en précarité aux États-Unis?
C'est exactement une néolibéralisation de la gestion de la pauvreté, puisque effectivement, pour plusieurs raisons. D'une part, les organisations à but non lucratif vont devoir adopter les explications de la pauvreté telles qu'elles sont portées par les pouvoirs publics et qui reposent davantage sur une forme de responsabilisation individuelle plutôt que sur une crise du logement plus structurelle. Et donc les solutions à déployer vont là aussi porter beaucoup plus sur des logiques d'individuels, de mise au travail, de façonnement des individus, en les responsabilisant, cette responsabilité néolibérale, beaucoup plus que sur une transformation de l'ordre social tel qu'il existe. Donc évidemment, les solutions qu'apportent ces organisations entretiennent cette urgence, ne solutionne pas la crise sur le long terme, mais au contraire pérennise une forme d'urgence et fait fonctionner aussi ce que certains appellent ce non-profit industriel complexe, en tout cas cette industrialisation de la pauvreté, et qui fait vivre en fait une grande partie de ces organisations et qui pour une partie ne sont toujours à but non lucratif, mais en fait sont quand même, exercent une activité qui devient de plus en plus lucrative à partir du moment où elle répond aux exigences des pouvoirs publics dans la façon de gérer la pauvreté.
Donc ces organisations, j'imagine, répondent à des objectifs, des cahiers des charges précis. Elles ont des financements donc
à
court terme, enfin 3 à 5 ans, pour répondre à tel type d'objectif. Que devraient mener ces pouvoirs publics finalement
L'État.
Et qu'elles délèguent à ces organisations et qu'elles pilotent finalement indirectement.
Exactement. Et on mesure peut-être pas à quel point, parce qu'effectivement on le voit émerger ici aussi, mais l'essentiel, ça doit, j'ai pas les chiffres exacts, hein, mais on est à plus de 90%, je pense. En tout cas, dans le cas de Portland, c'est 96% des fonds associés à la gestion de la crise du logement et donc au sans-abrisme. 96% de ces fonds qui sont déployés sous forme de contrats avec des organisations. C'est l'essentiel du budget, finalement, qui se déploie de cette manière-là. Et donc, tout ça... Pour dire qu'effectivement, on a une forme de normalisation de ces organisations qui répondent aux commandes des pouvoirs publics. Et dans le même temps, on a une différence qui s'accroît avec les organisations plus militantes, qui souhaitent rester justement indépendantes des conditions de l'État, qui souhaitent pouvoir garder cette vocation de transformation sociale, de transformation des manières de distribuer les ressources aussi, hein, non plus dans une logique paternaliste, mais au contraire en autonomisant, en émancipant les personnes. Et donc ces organisations-là sont de plus en plus l'objet de sanctions ou de contraintes dès lors qu'elles déploient une aide sociale qui ne correspond pas à celle que les pouvoirs publics exigent. Et donc sont de plus en plus en difficulté pour justement intervenir socialement. Sauf en cas d'urgence, comme on l'a vu pendant la crise du Covid par exemple et pendant les confinements où les pouvoirs publics étaient complètement démunis à ce moment-là et où ils se sont rendus compte que ces organisations militantes avec un fonctionnement qui est souvent plus informel, qui est souvent beaucoup plus flexible, étaient en mesure justement de maintenir leur activité pendant ce temps-là contrairement aux pouvoirs publics, ce qui témoignait aussi de la richesse et de la puissance de ce modèle-là et qui les a amenés donc à prendre une place particulière dans le cas de Portland. Et on pourra peut-être faire l'écho avec Résistant. Dans le cas de Portland, pendant le Covid, effectivement, les centres d'hébergement avaient fermé pour justement respecter la distanciation sociale, etc. Et donc, il n'y avait plus de centres d'hébergement. Et donc, certains de ces groupes militants ont profité, se sont saisis de cette occasion pour pousser aussi leur agenda, qui était celui du développement des micro-villages de tiny homes pour gérer ces populations sans-abri. Et les pouvoirs publics ont accepté, sans condition, leur ont donné de l'argent pour qu'ils prennent en charge la construction de ces villages pour gérer l'urgence. Et très rapidement, se sont construits 3 micro-villages d'une soixantaine de tiny homes qu'ils ont commencé à gérer. Et là aussi sur le fonctionnement qu'ils défendent, c'est-à-dire celui d'une autogestion, où les personnes sans abri qui habitent ces villages transforment même le village, le gèrent au quotidien, etc. etc. Et donc ça a fonctionné tout le temps du Covid. Et au sortir du Covid, pour que des financements publics puissent continuer à alimenter ces micro-villages, il fallait que ça soit géré par une organisation professionnelle, sous la forme d'un contrat avec les pouvoirs publics. Donc un appel d'offres a été lancé, une organisation plus professionnelle est arrivée sur place. Très rapidement, des tensions sont apparues parce que c'était une gestion paternaliste qui revenait, beaucoup plus verticale, qui se mettait en place, et qui a amené les groupes militants qui s'étaient largement investis dans ces micro-villages à finalement ne plus reconnaître dans le mode de fonctionnement et à quitter ces micro-villages, à se retirer finalement du fonctionnement de ces villages.
Donc la crise du Covid-19 concernant Cœur Résistant a aussi été un fort élément déclencheur.
Oui, en effet, on peut faire le parallèle. En 2020, du coup, il y a eu la crise sanitaire. Il y a certaines structures d'aide alimentaire qui ont fermé leurs portes et on s'est rapidement coordonné en réunion, en visio, une vingtaine d'acteurs de l'aide alimentaire, les grosses assos nationales, financées nationalement, les petites associations et également les acteurs de la ville, certains élus étaient présents autour de la table. Et l'idée, c'était de se dire, OK, certaines structures d'aide alimentaire ont fermé, on fait quoi ? Parce qu'on sait très bien que les personnes ont toujours besoin de manger. Et donc, les écoles étant fermées, la ville de Rennes a mis à disposition deux écoles, une au Blône et une à Morpa, pour que des sacs, soient des livraisons, une livraison à domicile de produits soit réalisée. Il y avait donc les deux écoles qui étaient investies. Une était coordonnée par Cœur Résistant, l'autre était coordonnée par Utude. Un toit, c'est un droit. Et l'idée, c'était du coup de préparer des sacs selon les besoins des personnes. Les personnes appelaient par téléphone ou s'inscrivaient sur Internet et disaient, bah voilà, nous on est quatre, on mange pas de porc, par exemple. Par la suite, il y avait des bénévoles qui nettoyaient l'ensemble, qui désinfectaient l'ensemble des produits. Je sais pas si vous vous rappelez, mais les contraintes étaient assez strictes. Pour ensuite faire ses colis, et ses colis étaient livrés à domicile, on faisait du porte-à-porte. Donc le CROUS de l'université de Rennes 2 était avec nous, nous ont mis à disposition des véhicules et les salariés qui étaient au chômage technique, et qui eux, après avoir optimisé la livraison, faisaient du porte-à-porte pour livrer ses colis. On l'a fait pendant 4 mois, je ne sais pas si on le refera encore aujourd'hui parce que c'était une sacrée organisation, mais on a réussi avec des équipes bien, bien engagées, bien militantes, et aussi donc avec Utude qui n'était pas à la base vraiment axée sur l'alimentation, mais qui dans un contexte un petit peu de crise où il y avait un besoin, eh bien littéralement s'est vraiment engagée et mobilisée auprès de nous. Par la suite, on a continué à se voir régulièrement toutes les semaines pour identifier quels sont les besoins, qu'est-ce qu'on fait. Et puis on a senti qu'en mai 2020, on allait bientôt déconfiner et on s'est dit, bah, est-ce qu'on arrête finalement ? Est-ce que c'était un projet commun qui a été mis en place dans un contexte d'urgence ? Et puis maintenant, on reprend nos activités ? Ou est-ce qu'on continue quelque chose ? Et là, la Croix-Rouge et le Secours Populaire nous ont dit, nous, on est saturés. Et donc, on aimerait qu'il y ait une épicerie qui existe vers laquelle on puisse réorienter les personnes qu'on ne peut pas accueillir, parce que là, on n'y arrive plus. Et du coup, l'idée du village alimentaire est née ainsi.
Et tiens, je vous propose d'écouter l'extrait d'un reportage qui avait été réalisé par Canal B en mai 2020, justement dans ce village alimentaire qu'on est en train d'évoquer, c'était dans le quartier Courrouze.
Ça, c'est le petit bonheur, ça.
Ah oui. Quand tu disais qu'il y avait le stock de salade, c'est le stock salade dans le frigo bénévole, c'est ça ?
Alors, bah, je suis Jean-Brun Mathieu et je suis le coordinateur de l'association Cœur Résistant qui officie au gymnase et plus largement sur la gestion du collectif d'aide alimentaire qui s'est réuni au lendemain du confinement. Il a fallu réinventer tout un système d'aide alimentaire avec le confinement. On est passé sur des livraisons à domicile, ce qui n'a jamais été fait pour l'ensemble des acteurs rennais. Ça a été une charge logistique impressionnante avec un nombre de gens qui font appel à nous qui était très important aussi. Et puis pour ne pas être un vecteur supplémentaire au Covid, il a fallu réinventer nos pratiques. La désinfection totale des produits, la mise en colis avec des petites équipes parce qu'il ne fallait pas être plus d'un certain nombre rapporter la maladie. Puis des plannings qui sont faits en rotation pour mettre sous quinzaine les bénévoles, voir s'ils développent des symptômes. Enfin, on est très épuisé de cette période et on est content de pouvoir réaccueillir les gens qui nous simplifient aussi le travail et qui, eux, leur permettent de pouvoir choisir ce qu'ils vont manger. Et ça, c'est important.
C'est une volonté de l'ensemble des acteurs de l'aide alimentaire. C'est lié à un contexte de crise et encore une fois, comme Cœur Résistant avait une forme de souplesse, on est une petite asso, on s'adapte, on n'a pas les directives nationales d'asso comme la Croix-Rouge, les Restos du Cœur, etc. On avait la possibilité de se dire, ok, nous on peut coordonner si vous voulez cette épicerie. Jusque-là, Cœur Résistant était entièrement bénévole de 2015 à 2020, il n'y avait pas de salariés. Et du coup, l'idée c'était de se dire, ok, Cœur Résistant est ok pour coordonner le village alimentaire à deux conditions. La première condition, c'est que ça soit les mêmes valeurs que Cœur Résistant, même si c'est une volonté commune. On a les mêmes, on n'a pas forcément les mêmes valeurs avec l'ensemble des assos d'aide alimentaire, mais on a les mêmes objectifs. L'idée, c'est de travailler ensemble, on est complémentaires. Mais que ça soit quand même validé. Donc ça a été validé pour une aide alimentaire gratuite, sans condition de ressources, sans inscription. Et puis la deuxième condition, c'était la mise en place de postes salariés, parce que jusque-là, tout le monde était bénévole, et on s'est dit que pour pouvoir perdurer cette action-là, eh bien, il fallait des postes salariés.
Merci. Non, mais c'est vrai que ça... ça illustre super bien ce que vient de dire Antonin. Et tu voulais réagir, pardon.
Bah peut-être, parce que je trouve qu'effectivement, Cœur Résistant, pendant le Covid, et ce que disait Hélène à l'instant, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont réussi à prendre une place particulière dans la gestion de la crise, et en particulier dans la distribution de l'aide alimentaire, et donc à se positionner un petit peu au centre du jeu, d'une certaine manière. Et ça, on sait que l'état social tel qu'il se constitue, c'est la matérialisation d'un rapport de force en permanence. Et ça a témoigné, ce moment-là, de la façon dont le rapport de force est aussi nécessaire pour faire en sorte que des valeurs, ou en tout cas des modes de distribution alimentaire, des modes de gestion de la pauvreté, qui vise plus à l'autonomisation puisse se déployer véritablement. Et donc on l'a vu pendant ce moment-là, et notamment avec le fait que vous gagnez l'objectif de maintenir l'inconditionnalité quoi qu'il en soit, avec en plus des salaires qui étaient distribués. Ça témoigne de la nécessité aussi de maintenir ce rapport de force pour que effectivement l'aide sociale, ou en tout cas les solutions à la crise, puissent se déployer de la manière dont on souhaite qu'elles se déploient.
Merci Antonin. On va enchaîné par un nouveau titre musical d'un groupe qui est toujours venu à Autanfort, qui se déroule en septembre, de Cœur Résistant. Et donc là, il s'agira de Mokhtar avec Disco Chameau. pouvoir conclure cette carte blanche dédiée à l'association Cœur Résistant. Donc Simon, tu vas peut-être pouvoir nous dire comment on peut participer, aider l'association.
Il y a plusieurs façons d'aider l'asso. D'abord en devenant bénévole, on a toujours besoin de bénévoles, que ce soit au village alimentaire pour aller retirer la nourriture, pour la distribuer, que ce soit sur le lieu de répit du Faupon pour tenir le lieu, l'animer, accueillir les personnes, discuter avec elles, ou que ce soit sur les maraudes, donc cuisiner et partir en maraude avec un petit chariot, aller à la rencontre des personnes à la rue et passer un bon moment avec eux et revenir à l'asso et faire la vaisselle.
Et ça peut être ponctuellement ou régulièrement ?
C'est quand on veut, ça peut être une fois de temps en temps, ça peut être toutes les semaines, il n'y a pas d'engagement dans le temps. L'autre façon de nous aider, si vous n'avez pas le temps, bah, c'est de nous filer un petit coup de pouce financier. On a une page Hello Asso, on a clairement besoin de dons privés. Donc n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur notre page et à nous filer un coup de pouce.
Ou à venir au mois de septembre prochain pour fêter tous ensemble les 10 ans de l'association.
C'est ça, 10 ans 2025, on ne sait pas exactement ce qu'on va faire, mais vous promet une belle surprise. Et on sait que ça va être cool, comme d'habitude.
On va peut-être réunir Lost in Hawaii, Stern et Mokhtar, le même
peut-être.
Soir qu'on vient d'entendre pendant cette émission.
Voilà, on est très content d'être venu sur Canal B. On remercie Lucie pour l'invitation et on vous dit à bientôt à Cœur Résistant.
Et oui, on remercie aussi Antonin pour ton intervention et de voir qu'en fait ce qu'on fait ne sert pas à rien. Donc on vous attend sur cette association, plus on est fou, plus on rit. Donc merci encore, merci aussi à notre cher Bertrand pour son animation sans faille.
C'était donc à l'asso en compagnie cette fois de Cœur Résistant et du chercheur Antonin Margier, une émission que vous retrouverez très vite sur le site canalb.fr. Le prochain rendez-vous ce sera le vendredi 24 janvier, toujours à partir de 13h, et cette fois c'est la toile ludique rennaise qui sera en studio avant l'édition 2025 du festival Rennes en jeu. En attendant, un seul conseil, restez branchés toujours sur les ondes de Canal B. Ciao.